La main verte avec Alain Baraton. Mon cher Alain, bonjour.
Mon cher Pierre, bonjour. Bonjour Patricia Martin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Le forsythia est un arbuste qui fleurit jaune.
Rassurez-moi, j'ai senti dans votre voix une hésitation. Vous connaissez le forsythia?
Je connais très peu de choses, Alain, et c'est pour ça que je vous écoute très attentivement.
Alors, le forsythia, qui est certainement l'un des arbustes les plus connus de France, produit au début du printemps des fleurs jaunes, souvent vives, et des feuilles, des fleurs éclatantes et superbes. Alors, moi, j'adore sa couleur, j'adore le jaune, mais il y a beaucoup de jardiniers aujourd'hui qui trouvent l'arbuste vulgaire de peu d'intérêt. Oui, oui, oui. Je l'avoue, le snobisme existe aussi dans le monde du jardin.
Vous le connaissiez, Patricia, le forsythia?
Bah oui.
Très bien.
Oui.
Bon, bah c'est parfait.
Je vous assure, Pierre-Vec, que la majorité des Français connaît le forsythia.
Bon.
Mais vous le connaissez de vue, obligatoirement.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est peut-être, trop commun, le forsythia, justement, parce qu'il est trop connu?
Oui, mais cela ne le rend pas pour autant moins beau. Non, moi j'aime bien, au sortir de l'hiver, aperçoit le forsythia, parce que c'est une plante qui me dit, ça y est, c'est le printemps, il est là. C'est un arbuste, en plus, qui devrait vous plaire, un jour où vous aurez peut-être une propriété. C'est une plante qui pousse sans contrainte, qui est peu regardante sur la qualité des sols, qui peut être plantée en isolé, en massif. Il peut même s'offrir en bouquet.
Et le forsythia, on le trouve très souvent chez les fleuristes.
Eh oui, on en trouve de plus en plus souvent. Alors, petit conseil, Pierre, si ce soir, plutôt tout à l'heure, en rentrant chez vous à midi, vous souhaitez offrir un bouquet à un proche, choisissez des branches avec les boutons fermés, sachez-le, et les fleurs s'épanouiront chez vous très très vite et plus longtemps. Et puis, si vous avez un jardin, sitôt votre bouquet fané, coupé sur les tiges des tronçons d'une vingtaine de centimètres, plantez-les dans le jardin. Eh bien, vous verrez qu'en quelques semaines à peine, ces petits bouts de branches que vous aurez plantés seront devenus de nouveaux arbustes.
En plus, on les met comme ça?
Oui, ils se bouturent d'une manière absolument incroyable. Pas la peine d'avoir fait une école horticole. On vous offre un bouquet de forsythia. Vous le regardez, vous le mettez de l'eau, ça consomme beaucoup d'eau. Ensuite, rappelez-vous Pierre, on coupe la branche tous les 20 centimètres, on plante dans la terre au un tiers et on obtient de nouveaux forsythia. Elle est quand même belle, la vie.
Faisons un petit bond dans l'histoire. Est-ce que, par exemple, Louis XIV connaissait le forsythia?
Eh bien non, comme vous, il ne le connaissait pas, mais pour d'autres raisons. Parce que la plante est originaire d'Asie et il faut attendre les années 1880 pour qu'il soit planté en ville. À peine découvert, le succès est immédiat et il est planté partout et beaucoup. Eh bien, sachez qu'autrefois, le mimosa était même surnommé le mimosa de Paris.
Alors, question habituelle, d'où vient ce nom? Forsythia?
Eh ben ça, je trouve ça assez extraordinaire. À l'origine, c'est Martin Wall, qui est un botaniste norvégien, qui le baptise ainsi à la fin du XVIIIe siècle, en hommage à un horticulteur anglais qui a consacré sa vie à l'acclimatation des plantes venues d'ailleurs. Eh bien, cet horticulteur s'appelle William Forsythe. Plus personne ne sait qui était cet homme, mort en 1804, mais grâce à la plante le forsythia, son nom continue aujourd'hui d'être célébré tous les ans avec l'arrivée du printemps. Je trouve qu'il n'y a pas plus bel hommage que pour un homme qui aimait les plante que de lui donner le nom d'un végétal.
L'arrivée du printemps. Vivement, vivement. Alain, les questions pour vous, elles sont nombreuses, comme toujours. Justine, comment tuer les nématodes dans mon potager?
Il est bon pour lire une langue étrangère.
Oui, mais tout à fait. Non, mais les nématodes, ce sont des petites bestioles qui vivent dans la terre et qui font des dégâts épouvantables. On n'a pas idée des dégâts causés par les nématodes dans la terre.
Ça a l'air de quoi?
Ce sont des petits vers microscopiques, très petits, qui vivent à des profondeurs. Autrefois, on utilisait la vapeur pour tuer les nématodes quand ils vivent, dans les profondeurs. Ce sont des végétaux qui sont parasitaires. Ils ne se contentent pas d'être près du végétal, ils vont parasiter les organes de vie du végétal et les racines en particulier. Comble du comble, ce sont en plus des végétaux qui se reproduisent parfois par parthénogenèse. C'est-à-dire qu'un nématode n'a pas besoin d'un copain ou d'une copine pour se reproduire tout seul. Il assume la descendance. Donc les dégâts peuvent être considérables.
Le paradis.
Alors que faire? Pas grand-chose si ce n'est un, la rotation de culture. Donc on change régulièrement de culture. Si vous avez planté dans un endroit l'an dernier des carottes, des tomates et des poireaux, vous inverser l'ordre de plantation et il paraîtrait également que l'ail et l'oignon les tiendraient à distance, mais ça, j'en suis moins sûr.
Et Nora, combien de temps après la plantation d'un arbre faut-il laisser en place un tuteur?
Un certain temps quand le jeune arbre vit dans une terre détrempée, il peut encore bouger. Quand un tuteur est solidement fixé et qu'il est propre, ça ne gêne pas. Je dirais 3 ans, 4 ans, on peut même parfois laisser 5 ans un tuteur, mais attention à bien toujours vérifier le collier. Le collier, Pierre, c'est la partie qui attache le tronc au tuteur. Toujours vérifier qu'il soit suffisamment distendu pour ne pas qu'il étrangle le végétal.
Eva, quelle plante faut-il privilégier pour attirer les abeilles ?
les tilleuls, le romarin, le thym, la lavande, tous ces végétaux qui dégagent quantité de parfums merveilleux, le thym, la myrtille. Je suis en train de déguster, les enfants, en ce moment, un miel à la myrtille, une petite merveille.
Donc, quantité, vous en avez apporté ?
Oui, c'est dans votre bureau, vous le trouverez après l'émission, Patricia. Vous m'en remercierez la semaine prochaine. Et donc, voilà, quantité de plantes. On pourrait également citer le frêne, l'acacia, le châtaignier, le sophara, le février, les aubépines, quantité d'arbres, effectivement, attirent les abeilles. Mais je vous rappelle déjà que pour attirer les abeilles, il faut cesser de mettre des produits qui les repoussent et se souvenir que quand on plante un végétal comme une lavande près d'une piscine, on n'attirera pas forcément les abeilles au-dessus de la piscine. Elles préfèrent rester au-dessus de la lavande. C'est quand même logique.
Question de Ruth. Les rosiers en pleine terre craignent-ils le gel ?
Certains vous disent que oui. Moi, je pense que j'ai connu des rosiers qui ont résisté à des hivers redoutables. Donc non, ils ne craignent pas le gel. Mais attention, les jeunes pousses, oui. C'est la raison pour laquelle maintenant, on les taillera uniquement lorsque les grosses gelées ne seront plus à craindre.
La pleine terre, vous savez ce que c'est ?
Oui, oui, bien sûr, mais on en parlera la semaine prochaine. Alain Baraton, un conseil de lecture.
Un conseil que je vous offre, 300 plantes comestibles de Berko Schroeder, Christa Baxen et Stéphanie Zurluter. C'est publié aux éditions de la Chaux-Niesclé, un guide qui vous permet tout simplement dans la nature de reconnaître 300 plantes comestibles, mieux de les cueillir et de vous nourrir ainsi.
Alain Baraton sur France Inter. Merci Alain.
Merci.